Frères et sœurs, je ne vous cacherai pas aujourd'hui qu'il s'agit pour moi d'un culte très particulier. Le 23 décembre dernier, mon père est mort. Il avait été baptisé orthodoxe grec. Il s'appelait Théophile, qui est un très beau nom, mais ce n'est pas le nom qui avait été choisi par ses parents. Car ses parents avaient préféré Théophanie ou Théophane, mais ce prénom n'a pas été admis ou pas été compris par un état civil face à une famille de réfugiés d'Asie mineure qui ne parlait sans doute pas encore, en 1933, un français correct. Il s'est donc appelé Théophile, ami de Dieu, et non pas Théophanie, lumière ou manifestation de Dieu. Cela dit, dans sa jeunesse, tout le monde l'appelait Théophanie. Je n'ai pas l'habitude de raconter ma vie dans les cultes, mais aujourd'hui, la coïncidence est trop importante pour que je ne vous fasse part, en confiance, de ce contexte personnel. Et c'est aussi dans cette ligne que j'ai voulu choisir le texte du jour de la liturgie orthodoxe, c'est-à-dire le baptême de Jésus, conçu comme première, comme consistante manifestation de Dieu. Et je l'ai choisi dans Marc pour sa sobriété et sa force. Dieu se manifeste-t-il? Réponse, oui. Et comment? Tel sera le fil de cette prédication. La Bible, notre Bible, raconte de très nombreuses manifestations de Dieu. Dieu se manifeste pour le peuple au Sinaï. Il se manifeste pour le prophète Élie au mont Horeb. Et il se manifeste par de très nombreux signes, par des apparitions d'anges, à l'intérieur de songes. Ces manifestations peuvent être subtiles, elles peuvent être spectaculaires. Elles peuvent être sobrement et puissamment racontées, comme dans le baptême de Jésus dans l'évangile de Marc, ou pleines de nuées mystérieuses, comme dans le récit de la métamorphose de Jésus, ou transfiguration. Toutes ces manifestations parsèment notre chemin de lecture d'autant de récits offerts à notre culture, à notre mémoire symbolique, parce que ce livre-là, c'est notre mémoire commune, ou mémoire symbolique. Ces récits sont offerts aussi à notre confiance dans nos vies de croyants. Mais voilà, pour beaucoup de croyants aujourd'hui, la Bible n'est que du papier où s'effacent progressivement des histoires qui sombrent dans l'oubli de génération en génération. Et ces récits sont au mieux souvent perçus comme des contes, considérés comme trop touffus ou trop composites, avec un message, s'il y en a un, considéré comme parfois trop simpliste pour pouvoir arriver jusqu'à notre cœur. C'est ainsi. La Bible n'est plus lue par l'immense majorité des chrétiens, ce qui pousse évidemment ceux qui encore tentent de la raconter, cette Bible, à l'expliquer, à la transmettre, à la prêcher, à sans cesse devoir tout récapituler et à adopter une ligne de plus en plus simpliste qui finit par décevoir, y compris ceux qui ne connaissent plus ces textes. C'est alors qu'il faut rappeler quelque chose. La manifestation de Dieu, au travers de la lecture de la Bible, n'est pas exactement le contenu qui se trouve dans le récit, présumé comme incroyable au nom d'une rationalité au petit pied. Mais cette théophanie, cette manifestation ne survient que quand le lecteur s'invite lui-même à être inspiré. Quand il aborde ce récit avec toutes ses ressources disponibles, y compris celle, évidemment, de la connaissance littéraire, pour en arriver à ce que ce récit lui parle. Pour que Dieu parle, au travers de la démarche d'appropriation spirituelle que le lecteur est en train de faire. Il lui parlera de quoi? Ce n'est pas la question de cette prédication aujourd'hui. Ce n'est pas la question de ce jour. L'important est que, par le viatique de cette lecture, Dieu parle, se manifeste, dans la vie d'un croyant singulier, ou même dans la vie d'une assemblée singulière, d'un petit matin, froid et pluvieux. La lecture, dans le sens que je viens d'évoquer, que je tente d'évoquer, lecture aussi fortement spirituelle qu'approfondie, est une porte pour ouvrir à cette théophanie. Et à chaque fois, c'est un miracle. Et c'est un miracle quotidien. Et c'est un miracle facile. Par exemple, avec ce texte de Marc sur le baptême de Jésus, le lecteur n'y pourrait voir qu'un récit de baptême de celui qu'une certaine tradition religieuse a appelé le Christ. Il pourrait compulser, des ouvrages pour savoir quelle forme de baptême pratiquait Jean, que signifiait ce baptême de Jean. Il pourrait admirer dans Marc la sobriété de la composition. Il pourrait s'arrêter là, mais il peut aussi, ce lecteur, simultanément écouter, battre son cœur en train de lire. Il peut, maintenant, le lecteur, cesser de juste voir les mots de cette voix de papier d'un Dieu qui s'adresse à celui qu'il nomme son fils pour, maintenant, entendre cette voix. Pour lui-même, réaliser l'immense privilège qu'il a lui aussi, lecteur, d'être aimé, comme ce Christ a été aimé. Il pourra, simultanément, se réjouir de sa nouvelle prise en compte de son propre baptême, qu'il rangeait naguère dans la récit des actes passifs, et dans le sens, au moment de cette lecture même, cette lecture approfondie, dont le sens vient de lui être manifesté. Alors nous avons parlé de la Bible, dont la lecture ouvre à une manifestation de Dieu pour soi ou pour une assemblée. Il faudra du temps, et il faudra une véritable énergie missionnaire, on va dire, pour redonner la possibilité au peuple de notre Église de s'offrir ces moments miraculeux de lecture. Sans cette pratique, nous aurons la plus grande difficulté à faire briller la bonne nouvelle. Mais je refuse de considérer que tout est perdu, et je nous invite tous à désormais pratiquer la Bible, à laisser Dieu se manifester, plutôt que de se plaindre, comme je le fais moi-même, sans lui ouvrir cette porte-là. On ne peut pas se plaindre de quelqu'un qui n'entre pas chez nous si on ne lui ouvre pas la porte. C'est vrai après tout. Ce Dieu-là, il n'a qu'à passer à travers la porte s'il est Dieu. Bien non. Non, il ne traverse pas la porte. Il est nécessaire de lui ouvrir la porte. Mais le croyant désabusé a évidemment de la peine à voir dans sa vie courante ou dans ce qu'il perçoit de la vie de son monde la moindre théophanie. Dieu, dit-on, s'est beaucoup manifesté aux temps anciens, mais aujourd'hui, il se serait mis en retrait. Mais, et cette prédication ne va pas suffire évidemment à nous en convaincre, cette perception-là n'est que le résultat d'une vision rabougrie. Une vision qui ne laisse pas la place à notre extraordinaire capacité que nous refoulons constamment, mais qui existe, de percevoir l'indescriptible. Nous sommes des êtres intuitifs, dont l'intelligence dépasse largement la perception consciente que nous en avons. Il nous suffirait de faire du lien entre notre ressenti profond et notre conscience pour voir le monde autrement, en dehors des prescriptions obligatoires et des injonctions. Pour ça, il faut faire appel à notre pleine conscience, pas uniquement celle qui pense dans notre tête, celle qui est fort utile, mais qui rationalise tout. Je prends un exemple. Cet exemple est venu parmi des centaines d'exemples. J'ai pensé spontanément au débat sur la communion, sur la Sainte-Cène, qui a agité les protestants entre eux et au XVIe siècle, et aussi vis-à-vis des catholiques. Ce pain n'est-il que du pain ? Dieu est-il dans le pain ? Oui, non, en partie, à un certain moment, le pain et le vin ne sont-ils que symboliques, etc. Toutes ces formules qu'un étudiant en théologie doit apprendre, évidemment, mais qui ne sont que des exercices de pensée. Pensons autrement, juste par exemple au terme de communion, et laissons-nous comprendre par le sens vital de cette communion qui s'offre en dehors des cases. Laissons la communion nous comprendre comme la communion de tous, des vivants et des morts, des présents et des absents, du présent et de l'éternité, et avec notre Dieu, qui est le lien nécessaire, pour que ce que nous ressentons dans ces instants de communion soit tout simplement vrai. Vrai, réel, pas du tout magique ou symbolique, mais d'une vérité simple qui dépasse une rationalité parfois peureuse. Un jour, vous n'étiez rien, vous n'étiez même pas conçu, pourtant il semble que vous étiez concevable puisque vous êtes là. N'étiez-vous rien ? Êtes-vous passé directement du rien à ce quelque chose qui est vous, là ? Ce qui serait déjà une manifestation extraordinaire d'une puissance considérable, mais peut-être même que vous n'étiez pas rien. Que vous étiez donc concevable, et dès lors vous l'étiez par une intelligence inimaginable qui d'un simple potentiel vous a donné la vie. Et des yeux qui ont de la peine à s'ébahir, et de la voix qui a de la difficulté à reconnaître le miracle, et un corps qui, certes passager sur cette terre, vous aura tout de même offert la possibilité de considérer le miracle stupéfiant de votre existence même. Qui vous a donné des poumons qui s'emplissent et se vident d'un souffle que vous ne produisez pas? Car en vous, il n'y a pas d'air. Il n'y a que la possibilité extraordinaire d'en vivre, de ce souffle. Inutile de faire évidemment la liste des possibilités infinies, de sentir la théophanie, la manifestation de Dieu. Bien sûr, nous ne sommes pas, vous n'êtes pas, et nous ne serons jamais obligés, même en constatant cette stupéfiante intelligence à l'œuvre à chaque seconde de notre vie individuelle ou collective, de conclure à une manifestation de Dieu. Mais là n'est pas le problème. C'est cet extraordinaire qu'il faut révéler, évident et pourtant sans cesse refoulé, comme s'il était banal, qui, selon moi, est la manifestation de Dieu, parce que moi je suis croyant et c'est comme ça que je le nomme. C'est cet extraordinaire refoulé qui est sans souci, et Dieu. Il ne s'agit pas forcément de nommer Dieu, mais simplement de percevoir l'extraordinaire caché à notre entendement et pourtant si abondamment, si généreusement offert. Mais bien sûr, même après avoir considéré les bienfaits de la lecture profonde de la Bible, même après avoir enfin senti la chance infinie de pouvoir vivre et percevoir quelque chose de l'infinie intelligence qui nous fait et nous entoure. Il est possible que, voyant le monde tel qu'il se figure, en particulier le monde humain et ses carnages désormais médiatisés, de dire que Dieu ne se manifeste plus. Alors, je dirais donc qu'il nous attend. Il nous attend après que nous aurons enfin senti ce que j'appelle le miracle permanent. Ce miracle permanent qui devrait nous mettre à genoux et nous obliger à dire « Comment ai-je pu être aussi aveugle et insensible devant l'extraordinaire intelligence et la beauté du monde ? Comment ai-je pu mépriser à ce point la lecture des récits offerts à mon intelligence et à ma spiritualité ?» Il nous attend évidemment, parce que nous sommes responsables de l'état de ce monde humain, et collectivement et individuellement, il ne tient qu'à nous que des changements radicaux s'amorcent pour que toutes les erreurs soient enfin corrigées. Nous sommes encore des enfants non éduqués, en fait. Et si on s'interroge sur la description de l'humanité dans la Bible, en fait, c'est cette humanité-là qui est racontée dans la Bible. Une humanité d'enfants non éduqués. Nous sommes ces enfants-là qui n'ont pas conscience de leur force et qui, globalement, n'ont aucune morale. Dieu nous attend le jour où nous serons tous devenus collectivement adultes. Nous ne serons plus les mêmes humains, nous serons autres. Il nous a donné, en attendant, ses commandements, d'une part, et la confiance en sa présence aimante, d'autre part, pour que nous nous révélions enfin nous-mêmes, au sein d'une création renouvelée, qui n'aura plus besoin de souffrir et qui n'aura même plus besoin, un jour, d'espérer. L'Église du Christ était censée être aux avant-postes de ce qu'elle a appelé le royaume ou le règne. Il s'agit sans doute de la réveiller, cette Église, à sa mission originelle. Et Amen.